Aujourd'hui, deux femmes qui ont pour vocation la défense des droits des personnes en situation de handicap, en quelque sorte, et qui pensent, l'une en début et l'autre en fin de carrière, qu'on peut et qu'on doit se démener pour former aux droits ou développer une éthique des droits. D'abord avec nous, Amélie Ouellette, qui est infirmière d'abord, mais en plus, qui est candidate à la maîtrise en sciences cliniques à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, Amélie Ouellette.
Bonjour, ça va bien?
Oui, ça va bien. Merci d'être avec nous depuis Sherbrooke, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Bon, et à table avec nous, Mireille Tremblay, professeure associée au département de communication sociale et publique et cofondatrice du Programme international d'éducation à la citoyenneté démocratique. Bonjour, Mireille Tremblay.
Bonjour.
Alors, Mireille, on l'entend bien. Mireille, vous êtes déjà venue à l'émission. Je vais d'abord m'adresser à vous, si vous permettez, Madame Ouellette. Je vais d'abord m'adresser à Mireille Tremblay. Donc, je pense que vous pourriez peut-être répondre. En tout cas, je ne vais pas mêler les cartes, mais pourquoi est-ce que c'est si important de connaître ses droits de citoyen ou de citoyenne? J'ouvrirai comme ça.
Parce que la qualité de la vie démocratique repose sur la participation des citoyens et des citoyennes, sur la force de la société civile et du public.
Mm-hmm. Donc, on l'oublie souvent. Ouais. Hein? On pense que c'est les représentants qui font la démocratie, mais vous, ce que vous dites, c'est que c'est les citoyens qui devraient s'en saisir.
Ils sont plus ou moins actifs, mais qui doivent être certainement vigilants.
Mm. Mireille Tremblay, la citoyenne aussi. Et donc, Amélie Ouellette, l'infirmière, mais pas seulement. C'est quoi donc pour vous l'importance de connaître ou de faire connaître ses droits?
En fait, surtout dans un système de santé où, exemple comme moi, où ce que je porte mon étude, c'est mm-hmm. en contexte hospitalier, c'est encore plus important pour les gens, surtout, exemple, moi, ma population, sur les gens ayant une déficience intellectuelle, c'est important là pour vraiment que le personnel soignant puisse respecter leurs droits à travers les soins qui vont être prodigués. Là.
Mm-hmm. Ben, en fait, rappelons, vous deux, Mireille Tremblay et Amélie Ouellette, vous avez été tous les deux praticienne. En fait, Mireille Tremblay a déjà été psychologue, puis elle a saisi un peu les mêmes choses que vous à l'époque où elle pratiquait. Mais donc, vous travaillez avec des gens qui ont une déficience intellectuelle, puis vous n'êtes pas juste une infirmière avec eux. C'est ce que vous dites dans votre recherche, hein?
Oui, c'est ça. En fait, c'est que le rôle d'infirmière va plus loin. En fait, il devrait aller vers la défense des droits des patients ayant une déficience intellectuelle.
Mm-hmm.
Donc, vraiment d'aller plus loin, vraiment vers un rôle plus éthique là, de l'infirmière.
Donc, l'éthique, c'est un mot qui revient pour les deux. Maintenant, on a bien situé qui vous êtes, mesdames. Merci d'être là. Et je vais me retourner vers Mireille Tremblay d'abord, et je reviendrai ensuite avec vous, Madame Ouellette. Donc, Mireille Tremblay, vous êtes là parce qu'il faut aussi former au droit. Et dans moins d'un mois, soit du 12 au 17 juin, va se tenir la semaine Droit, citoyenneté et handicap à l'Université du Québec à Montréal. Donc, cette semaine thématique va prendre la forme d'une semaine complète de formation qui s'adresse aux gens du deuxième cycle, mais aussi à n'importe qui serait interpellé par l'émancipation des personnes en situation de handicap. Donc, qu'est-ce que vous entendez par émancipation puis éthique? Sur quoi vous formez, au fond, durant cette semaine?
La question de la citoyenneté, pour nous, c'est la capacité d'exercer ses droits. Donc, mm-hmm. on a une variété de droits à l'éducation, aux loisirs, des droits politiques, des droits civils. Et la citoyenneté, c'est l'exercice des droits. L'émancipation, c'est ce qui nous permet d'exercer nos droits, d'être des citoyens sans la contrainte et le regard oppressif ou les oppressions de groupes extérieurs qui nous diraient comment nous comporter.
Donc, c'est vraiment la personne qui décide elle-même, au fond.
C'est dans le contrat social.
OK.
Et c'est la liberté de la personne, la liberté des groupes d'être qui ils veulent être sans se faire prescrire. Vous avez des limites ou vous devez vous comporter comme ceci, vous devez avoir tel genre sexuel ou vous devez avoir tel handicap. Vous ne pouvez pas faire telle chose. Donc, c'est se libérer du regard contraignant des autres, du regard et des obstacles qui nous empêchent d'exercer notre liberté de citoyen.
Et est-ce que, parce que vous avez travaillé depuis le début avec des personnes qui ont déficience intellectuelle aussi, Mireille Pétremblay, est-ce que comment ça se passe avec une personne qui peut-être présente des difficultés à la lecture ou qui connaît pas facilement ses droits parce qu'on n'a pas pris le temps souvent? Là, comment on fait pour former aux droits ces personnes-là?
J'ai commencé à travailler sur l'exercice des droits il y a plusieurs années déjà. Et la première réaction, quand je parlais de ça aux gens, c'est tu travailles avec des personnes qui ont une déficience intellectuelle, ça n'a aucun sens, ils ne vont pas comprendre leurs droits, c'est quelque chose de juridique. Tu n'es pas juriste toi-même, pourquoi tu fais ça? Et on s'est rendu compte qu'au contraire, quand on a commencé il y a une dizaine d'années, on était à Lille en France avec une collègue qui travaillait aussi avec des usagers et ici au Québec. Et on s'est rendu compte que c'était tellement une libération pour les personnes de parler de leurs droits parce qu'elles ont un jugement critique, parce qu'elles se sentent opprimées mais qu'elles n'osent pas le dire. C'est ça qu'on travaille de façon adaptée avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles. On va utiliser des photos, on va utiliser des accompagnateurs, mais on ne fait pas de formation en droit en disant « voilà ce que sont vos droits et apprenez ceci ou cela ». On part de l'expérience des gens et de leur récit. Alors, il y a toute une démarche et notre première... Au départ, on demande aux personnes « quels sont vos droits ?» qui vont illustrer ou pour lesquels ils vont offrir des témoignages et on construit leurs apprentissages à partir de leur situation.
Ouais.
Et c'est comme ça aussi qu'on va créer un sentiment d'empathie. Mm-hmm. Parce qu'à partir des expériences individuelles, on reconnaît des expériences qui sont communes et partagées.
Oui, les autres comprennent, face au récit de certains, les autres comprennent comment reconnaître les droits. Ils reconnaissent un peu leurs droits instinctivement, c'est ce que vous direz? Je ne dis pas que c'est de l'instinct.
On connaît plus nos droits qu'on pense.
Ouais.
Après ça, on peut les reformater en disant, ben, écoute, ça correspond à tel type de droit. Mais les gens ont une... Ça fait partie des usages communs ou du vocabulaire. Les enfants qui disent à leurs parents à 8 ans, je vais appeler la DPJ.
Donc, on est parents.
On a une certaine connaissance populaire de ce que sont les droits.
Okay.
Et ce qu'on veut changer, c'est la relation. Si on parle de relation avec l'appareil d'État, c'est au lieu d'arriver en disant j'ai besoin de ceci et j'ai besoin de cela et vous me faites la faveur de m'aider ou de m'offrir des services. Non, nous avons des droits. Et on constate avec les personnes qui ont des déficiences intellectuelles ou les autres personnes en situation de handicap qu'il y a un changement de rapport dans leur façon d'exprimer leurs demandes.
Il y a une
plus grande fierté.
Ça s'améliore.
Oui, et ça change vraiment. Un usager qui disait, ben, écoute, tout le monde fume chez moi, les intervenants fument et puis... Moi, elle dit, nous autres, on n'a pas le droit à les usager. Mais dit, quand je vais rentrer chez nous, je vais le leur dire.
Donc, vous avez travaillé avec des personnes qui ont des déficiences intellectuelles, aussi des personnes en situation de handicap. Mais là, dans le cadre de cette semaine Citoyenneté Handicap du 12 au 17 juin, vous adressez à tout le monde en même temps, puis vous formez au droit. Et moi, faut que je dise ici, c'est une première, au fond, pour une université francophone d'avoir un programme spécifique qui est, dans le fond, l'équivalent de ce que les anglo-saxons appellent le « disability studies ». C'est la première fois que vous avez réussi à implanter ça, au fond.
En fait, on s'inscrit dans cette foulée-là des « disability studies ». Je ne sais pas si les « disability studies » parlent spécifiquement des droits, parlent d'empowerment des personnes, de prise de parole des personnes, de recherche qui se fait par les personnes, avec les personnes. Donc, c'est un courant qui vient d'Angleterre, mais effectivement, on se situe dans cette foulée-là. Et en fait, c'est Laurence Parent qui a fait sa maîtrise à Toronto en Disability Studies, qui, dans le cadre d'une semaine précédente, parce qu'en fait, c'est la sixième, nous disait « vous devez faire un programme de formation
».
Alors, ça fait 3-4 ans qu'on essaie de développer un programme de formation et là, on a obtenu l'aval, la reconnaissance d'un cours, le soutien de l'Université du Québec à Montréal. De créer ce cours-là.
Mais quand même en milieu universitaire, sauf que pour que les gens sachent, il est possible de s'inscrire à l'université,
exact,
de suivre ce cours, mais il est possible d'y participer autrement, comme auditeur, complètement libre, sans être étudiant.
Exact.
Bon, on reviendra à la fin de l'émission si on souhaite y aller. D'ailleurs, vous êtes aussi convié, Mélie Ouellet. Je pense que vous pourriez grandement contribuer, comme infirmière, comme chercheuse aussi sur les droits des personnes. Comment vous réagissez à ça? Est-ce que ça vous parle, Mélie Ouellet, ce que propose ou défend Mireille Tremblay?
Oui, en fait, c'est clair que ça me parle. Je trouve que c'est une très belle initiative. Et pour ma part et pour la part aussi de d'autres infirmières, ça pourrait être très intéressant d'assister à ces formations-là, effectivement.
Bon, excellent. Alors, on invite les infirmières, les praticiens, les cliniciens, les professionnels dans la santé qui sont avec des personnes en situation d'handicap à être formés là, au droit. Mais il y a d'autres moyens aussi. Amélie Ouellet, dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous avez décidé, vous aussi, de vous intéresser aux droits comme infirmière?
En fait, ça vient dans ma propre pratique professionnelle, je vous dirais, auprès des patients ayant une déficience intellectuelle. Moi-même, je me sentais très mal outillée lorsque je devais prendre en charge un patient ayant une déficience intellectuelle. J'ai noté ce besoin de peut-être mieux m'outiller, mais mieux outiller aussi les infirmières là, par rapport au rôle de défense des droits de cette clientèle-là ayant une déficience intellectuelle.
Écoutez, je vous arrête deux secondes. C'est super intéressant, vous dites qu'au fond, dans la profession d'infirmière, il y a une éthique qui est proche de celle de la défense de droit. Expliquez-nous ça un peu mieux.
Oui, en fait, comme infirmière, en fait, on appelle ce concept-là aussi advocacy,
oui.
Ou défense des droits. En fait, oui, c'est un rôle éthique de l'infirmière qui devrait justement là, réagir en fonction de situations, peut-être exemple des enjeux éthiques que cette clientèle-là pourrait vivre.
Oui.
Et là, comme infirmière, de prendre parole pour le patient ou d'appuyer le patient dans sa prise de parole également. Là.
Ah oui, mais c'est super intéressant. Est-ce que les gens avec qui vous faites la recherche, puis les autres infirmières à qui vous en parlez, étaient au courant de cette dimension-là éthique de leur profession?
Je vous dirais oui et non. C'est sûr que c'est pas pour rien hein, qu'on fait une recherche sur ce sujet-là. En fait, ce qu'on voit, c'est que ce rôle infirmier-là est encore méconnu dans notre pratique professionnelle.
Mm-hmm.
Et encore plus, je vous dirais, envers cette clientèle-là ayant une déficience intellectuelle. Là. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire.
Mais c'est là-dessus que vous travaillez. Et puis, oui. Peut-être que vous pourriez nous donner, là, pour que les gens comprennent bien ce qui se passe, une illustration ou un exemple que vous avez vécu ou que vous croisez dans le cadre de votre recherche où, justement, vous pouvez aider à porter et à défendre les droits?
Oui, en fait, c'est sûr qu'il y a plusieurs enjeux éthiques qui peuvent être vécus, particulièrement envers cette clientèle-là.
Mm-hmm.
Tant au niveau, exemple, de la communication, des fois, qui peut être difficile à établir avec le patient ou la famille, ou des fois, des besoins qui demeurent soit non répondus ou partiellement répondus ou juste même pas bien compris. Donc, nous, comme infirmières, notre rôle, ça serait, exemple, d'essayer de favoriser une meilleure communication avec le patient ou tout simplement de dire, ben non, il y a un besoin qui a été non répondu. Donc là, à ce moment-là, l'infirmière pourrait prendre parole et dire, ben je vais faire des actions plus concrètes, là, dans le dire à l'équipe médicale, par exemple, que tel truc n'a pas été bien compris par la famille et le patient et peut-être même de mieux expliquer les informations aussi.
Mais moi, je sens que, mesdames, vous allez vous lire mutuellement. Il faut que vous sachiez que Mireille Tremblay fait des recherches aussi sur la démocratie et les droits dans le milieu de la santé. Et je suis sûre, c'est quoi le titre de votre mémoire en cours, Amélie Ouellette?
Moi, c'est le rôle de défense des droits envers les patients ayant une déficience intellectuelle, là, le rôle de l'infirmière.
Donc, on surveille ça. C'est à l'Université Sherbrooke que vous faites cette étude-là. Merci beaucoup, Amélie Ouellette, infirmière et aussi candidate à la maîtrise en sciences cliniques.
Mais merci à vous, c'est gentil.
Bon, Mireille Tremblay, pour s'inscrire à la semaine Citoyenneté Handicap, on fait comment brièvement?
Simplement me faire parvenir un courriel à tremblay.mireille@ucam.ca. Et je ferai parvenir les documents selon que la personne veut s'inscrire comme étudiante régulière ou auditeur.
Bien. Et donc, on retrouvera aussi sur la page de l'émission le lien pertinent vers la programmation. Très content que vous ayez été, que vous ayez été avec nous. Merci à Mireille Tremblay, professeure associée à l'UQAM et fondatrice aussi du programme d'éducation à la citoyenneté démocratique.
Merci.